Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie et Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Écoutez, ça va très bien, c'est le temps des petites balles jaunes, de la terre battue et des Français qui perdent, comme chaque année. Donc autant se mettre au frais et aller au cinéma.
Voilà, c'est la meilleure des choses à faire. Voilà un bon conseil, Laurent. Vous allez, vous, nous parler de films à voir à la télé. Combien de films avez-vous choisi ce soir ?
Oui, alors c'est surtout le soir.
Oui.
Une bonne soirée, après une bonne journée de travail, au frais, tranquillement, une bonne soirée cinéma. Donc j'ai sélectionné 5 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Et puis on peut éteindre aussi tous nos écrans, les petits, les grands, les moyens. Et à ce moment-là, il y a un conseil de lecture sur le cinéma, bien sûr. Il y aura même deux, puisque Guillaume va aussi nous conseiller.
Oh, mais justement, Guillaume Sidom est là, celui qui règne en maître sur l'atelier S-Cinématographique, sa mécanique, en tout cas, c'est lui le spécialiste dans son retour de manivelle. Il a mis son bleu ce soir, on le voit bien. Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Alors, de quoi allez-vous nous parler ce soir ?
Oh, un petit chef-d'œuvre de cours, c'est d'occasion, on va le voir dans cette émission, à la mise en scène vraiment maîtrisée, qui nous montre peut-être toute l'absurdité de la vie sociale. Palme d'or du meilleur court-métrage à Cannes en 92 et Oscar l'année suivante. Et j'aurai donc un conseil de lecture, une fois n'est pas coutume, sur le rapport entre le passage de la peinture et le cinéma.
Ouh, mais dites-moi...
C'est pointu.
C'est très pointu. Guillaume Sidom, vraiment, est redoutable dans ses conseils. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme notre homme de loi des séries l'est également, puisque bah, il va, comme à l'accoutumée, il l'a déjà fait d'ailleurs, poster son petit papier que nous écouterons et qui est consacré... vous serez surpris par la nationalité de cette série qui s'appelle La Traque dans le sang, la saison 2 sur Netflix, La Traque dans le sang. C'est une série sud-coréenne. Vous savez combien Grégory Com aime l'Asie. Et encore une fois, il va nous en parler dans son tribunal des séries. Ce soir, aura-t-il revêtu la robe du procureur ou celle de l'avocat ? C'est à voir, en tout cas à entendre. Ce sera pour tout à l'heure. Dans le panier de l'ouvreuse, qu'y a-t-il d'autre ? Il y a l'affiche de la semaine. Un dernier petit écart à Cannes avec un film. Mais vous allez nous en dire quelques mots, Laurent, même plus, puisque c'est vous qui scrutez l'affiche de la semaine. Avec l'ouvreuse. Et puis il y aura les reprises sur le grand écran. Et bien sûr, en fin d'émission, on a toujours des coups de cœur parce qu'on a des films, des manifestations, des expositions de temps en temps qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis ce soir, nous sommes particulièrement content, heureux même, l'ouvreuse trépigne d'aise. Nous recevons Nathalène Petiot et Alexandre Assemat. J'espère que je n'ai pas écorché vos noms à tous les deux. Bonsoir Nathalène, bonsoir Alexandre.
Bonsoir Louis-Marie.
Approchez un peu plus des micros, n'ayez pas peur. Alors Nathalène Petiot et Alexandre Assemat, vous êtes là pour nous parler un festival chasse l'autre. Allez, laissons la croisette et allons nous précipiter dans la côte qui nous amènera depuis l'Union jusqu'à Saint-Geniès-Bellevue pour aller découvrir du 2 au 6 juin le festival Détour en Cinécourt, un festival international de courts-métrages. Et vous êtes là pour nous en parler. Il y a plein de belles choses, non, dans ce festival ?
Oui, tout à fait. Donc tous les soirs, on a des séances organisées et projetées dans le cinéma Le Ventura, mais aussi des concerts live, des food trucks et tout plein d'animations organisées par notre merveilleuse équipe de bénévoles sur cette semaine de court-métrage.
Alors, la question qu'on se pose toujours, c'est, quel que soit le festival, que ce soit les courts-métrages ou des longs-métrages, combien voit-on, combien une équipe de sélection voit-elle de films pour arriver à en sélectionner, pour composer le programme que vous allez proposer ? On est à 50 près, hein, c'est pas... Alexandre ?
Honnêtement, je pense que les visionneurs en voient pour moins de 1000. Pour la plupart, tout ça pour en dégoter les meilleurs, donc 74 meilleurs, pardon, pour le festival. Et donc voilà, donc ça fait beaucoup de films à regarder pour peu d'élus, on va dire.
Oui, donc c'est compliqué, ça demande du temps. Même si ce sont des courts-métrages, il faut regarder les films et c'est à cette seule condition qu'on peut arriver à monter un festival comme le vôtre, ambitieux, qui cette année soufflera 29 bougies, c'est-à-dire qu'on est prêt, des 30 là. Ouh, on est sur des charbons ardents. Justement, comment vous êtes, vous, comment vous sentez-vous à quelques jours du début du festival ?
Bah, je pense que pour ma part, je suis excitée. J'ai hâte d'être au festival, de rencontrer les invités, ceux qui font du cinéma une réalité, mais aussi de partager ça avec les bénévoles et les festivaliers. Donc, qu'une seule hâte, c'est d'être mardi prochain pour démarrer cette semaine de court-métrage.
Alors, cette semaine de court-métrage correspond à... Donc, du mardi 2 au samedi 6, ça fait combien de séances ?
10 séances.
10 séances. Alors, du mardi au vendredi, il n'y en a... enfin, du mardi au jeudi, il n'y en a qu'une par soir.
C'est ça.
Parce que si je regarde bien les notes que j'ai sous les yeux, je ne me trompe pas.
Non, c'est exactement ça. Mardi, mercredi, jeudi, on a une séance à partir... de 20h30, et le vendredi on propose deux séances, une à 20h30 et une à 22h30, donc une séance plein air dans le parc du château de Saint-Geniès-Bellevue qui ouvre exceptionnellement ses portes chaque année seulement pour notre festival, et puis après on a cinq séances sur la journée du samedi, donc ça démarre dès 11h jusqu'au bout de la nuit.
Il faut signaler quand même que la séance en plein air est gratuite.
Tout à fait.
Les autres, évidemment, nécessitent un billet d'entrée qu'il faut payer, mais la séance de plein air est gratuite, et avec le temps qu'il y a en ce moment, qu'on espère être le même la semaine prochaine, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de monde.
Oui.
Quelle est la moyenne des films dans les séances, hein ? Ah, pareil, combien y a-t-il de films ? Entre 5 et 6, non ? Ça dépend des longueurs, évidemment.
Oui, c'est ça. C'est des séances d'à peu près 1h15, 1h30. Donc, entre 5 et 6 films. La séance qui bat tous ses records avec quasiment une quinzaine de films, c'est la séance Courtissimo, puisque c'est une séance d'1h30 avec que des extras courts, en fait, qui sont projetés. L'objectif, c'est de faire un plein de courts-métrages en un minimum de temps.
On va continuer cette conversation en entrant dans le détail des séances, mais justement... On a l'habitude de regarder un film et pourquoi pas un court. Allez, installez-vous confortablement. La projection commence.
Billet, s'il vous plaît. Vous avez le complément jusqu'à Dev ?
Comment ça ?
Votre abonnement est sur Boulogne-Cateau-Cambrésis. Ce train est direct jusqu'à Dev. Vous avez le complément ? Vous n'avez pas le complément. Je vais vous le faire, mais je suis obligé de vous dresser un procès-verbal.
Mais non, monsieur, je descends à Cateau.
Vous ne pouvez pas descendre à Cateau. Ce train est direct jusqu'à Dev.
Il peut pas descendre à Cateau, le train est direct jusqu'à Dèvres. Il a quelques problèmes avec le contrôleur, ce voyageur. Et vous allez nous parler de ses problèmes, Guillaume.
Eh oui, je vous propose de prendre le train ce soir pour Omnibus, réalisé par Sam Carman en 1992 avec Daniel Rial et Jacques Martial, notamment au casting. Direction donc les rails du quotidien, un train-train bouleversé avec ce petit bijou du cinéma français, un court d'à peine 9 minutes. 9 minutes ont suffi, 9 minutes parmi les plus hilarantes de l'histoire du cinéma. Tour à tour drôle, angoissant, émouvant. Pour finir sidérant, ce court voyage ne craint pas la monotonie. Omnibus, cauchemar universel d'un usager des transports publics, mais qui va marquer l'histoire du format, puisqu'il va remporter la Palme d'Or du court-métrage à Cannes en 1992, puis l'Oscar du meilleur court-métrage l'année suivante. Parfaite spécificité du court-métrage pour certains, caricature et limite de l'exercice pour d'autres, le film à chute est sans doute un des plus difficiles qui soit, et en un temps record, le film se doit en effet d'être efficace et pouvoir être vu et revu avec plaisir. Le comique est d'abord affaire de rythme et de mécanique, tout un art de savoir ménager en effet crescendo et effet de surprise. Le principe est simple, presque banal. Un homme monte comme chaque matin dans son train pour aller travailler, sauf que ce jour-là, eh bien, un changement d'horaire transforme son trajet en véritable cauchemar administratif. Le train devient express, ne s'arrête plus à sa gare et l'homme voit soudain sa vie parfaitement réglée, déraillée. Un homme se rend donc compte que le train qu'il prend quotidiennement ne s'arrête plus donc à la gare, où il ne peut pas se permettre d'être en retard au risque de perdre son emploi. C'est ce qu'il va expliquer à qui veut l'entendre, jusqu'à transformer l'indifférence habituelle des transports en commun en un vent de solidarité. Pour notre homme, la martyre de sa vie, c'est son emploi. Malheureusement, la clé de voûte de son emploi, c'est la SNCF. Qu'un jour, celle-ci s'arroge le privilège de modifier ses horaires. Et voilà que la vie de notre homme est bouleversée. La pluie tombe, l'hiver est triste. Pourquoi faut-il en plus que l'enfer de notre quotidien soit pavé de bonnes intentions? Toute la force d'Omnibus tient donc dans cette montée absurde de tension. Sam Carman filme la routine comme une mécanique infernale. Les horaires, le travail, les correspondances, tout semble suspendu à quelques minutes de retard. Et derrière la comédie, bien Omnibus nous raconte peut-être aussi quelque chose de profondément moderne, notre dépendance au système, aux rythmes imposés, à cette organisation millimétrée qui peut s'effondrer pour un détail.
Sam Carman a 29 ans, quelques rôles dans des films secondaires, un second rôle dans une série célèbre à l'époque, Navarro, avec Roger Alain, et aucune expérience dans la réalisation quand il dirige Omnibus.
Et pour une première réalisation, c'est donc un coup de maître, mais revenons au film pour mieux le décortiquer. L'homme traverse donc la gare de Boulogne-sur-Mer avant de monter dans un omnibus à direction de Dèvres, et nous sommes rattrapés ici par la magie du cinéma, parce que la gare du début est en fait celle de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Nous sommes donc, par déduction géographique, sur la ligne Boulogne-Saint-Omer. Le tournage du film a donc été possible grâce à l'association du train touristique à petite vitesse du haut de Desmorins, qui a fait rouler son matériel sur cette ligne abandonnée, mais encore ouverte au trafic de marchandises. Daniel Rialet, au casting de ce formidable cours, joue avec justesse, finesse et sincérité l'homme au bord du gouffre. Son compère de toujours, Christian Ross, bien joue lui le rôle du conducteur de l'omnibus, plus à l'aise dans un registre comique. L'acteur parisien incarne ici l'homme qui fait donc basculer la situation. Et le troisième personnage principal, c'est donc le contrôleur. Il est interprété par Jacques Martial, immense acteur au demeurant. Français d'origine guadeloupéenne, sachez que sa voix vous est sans doute familière puisqu'il double en effet régulièrement Will Smith. Booba, l'ami de Forrest Gump, c'est aussi sa voix. Le ressort dramatique tient ici tout à fait à la situation kafkaïenne, puis au conte à rebours comme acmé du suspense, qui vont donc concentrer notre attention et ménagent d'autant mieux le retournement final. Une des clés de la réussite d'Omnibus, c'est sans doute qu'il tient à cette impeccable mécanique, intriguée par des sentiments, une patte humaine qui lève peu à peu et suscite les applaudissements des passagers avant de provoquer l'inverse de ce qui était espéré. Je vous laisse le plaisir de découvrir ou redécouvrir cette chute inoubliable, à retrouver donc sur YouTube à tout moment, et en Blu-ray et DVD chez DVD Pocket. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, courez voir des cours. Des ambiances à la Jacques Tati, c'est Jean Mallet qui signe la musique d'Omnibus de Sam Carman. Ça, c'est la bande-annonce de Détour en Cinécourt, la 29e édition. Alors évidemment, approchez mieux de votre poste pour voir les images. En tout cas, la musique, on la doit à un groupe qui s'appelle Half Live. Et ce morceau, c'est Still Feel. On retrouve Nathanaël Petiot et Alexandre Assemat qui vont nous parler maintenant du détail de ce qui vous attend, car vous allez monter la fameuse côte qui vous conduira à Saint-Geniès-Bellevue dès le 2 juin jusqu'au 6 juin pour Détour en Cinécourt, le festival de court-métrage. Alors, la première séance, celle du mardi, a toujours un thème, et cette fois-ci, le thème, eh ben, il met qui à l'honneur, Nathanaël ?
Il met à l'honneur les femmes. La séance d'ouverture, c'est Elle en cours. Donc ça va être l'occasion de voir des courts-métrages qui mettent à l'honneur des rencontres sur des femmes, des caractères différents sur les femmes et des moments clés de leur vie, comment elles avancent, comment elles grandissent et comment elles évoluent.
Ah, c'est un beau programme qui est arrivé. Comment se fait-il que vous ayez choisi ce thème? Voilà. Il valait mieux exprimer mon... Il valait mieux que j'exprime ma question. Ouais, je vais y arriver.
Ben, je pense que c'est d'actualité. Il faut mettre aussi... je pense que dans notre vie actuelle, on ne met pas peut-être assez à l'honneur les femmes, pardon. Et c'est important, voilà, de par cette séance, les mettre en avant et montrer qu'elles peuvent être très fortes. Voilà, je pense que c'est important de nos jours.
Alors, oui, Guillaume.
Une question un peu plus technique, mais je la pose chaque année, mais je vais la reposer. Est-ce qu'il y a une durée maximale pour la sélection de courts-métrages? Jusqu'à quelle durée vous allez?
Oui, alors on essaie de faire au maximum 25 minutes, de ne pas être trop long pour pouvoir mettre plus de films de courts-métrages et avoir un rythme aussi plus important, on va dire.
D'accord.
Oui, parce que maintenant, il y a des courts-métrages de plus en plus longs et ça ferait des séances avec seulement deux, voire trois cours. Ça serait un petit peu paradoxal.
Ça
commence à quelle heure, mardi?
Alors, le festival ouvre ses portes à 19h pour accueillir les festivaliers sur la buvette, l'ambiance guinguette, mais la séance, elle, ouvre à 20h30.
Et le lendemain, alors là, il y a une catégorie de spectateurs, si j'ai bien lu le programme, qui n'est pas conviée à cette séance-là.
C'est ça.
Pourtant, c'est le mercredi, c'est la fête des enfants. Mais là, le soir, non, il faut qu'ils soient.
Il faut qu'ils aillent au lit. Le lendemain, il y a école.
Oui, c'est vrai.
Donc, il faut que j'aille dormir ce jour-là.
Alors, comment s'appelle cette séance?
La séance s'appelle Les enfants sont couchés. Donc, même système, elle commence à 20h30. C'est une séance où on verra des courts-métrages un peu plus durs, qui ont pour habitude quand même de mettre une claque aux festivaliers qui viennent les voir, si puis-je dire. Et puis aussi de passer un bon moment entre adultes, en effet.
On a des chances d'être déstabilisés. Et il faut se cacher les yeux.
Non, il n'y aura pas d'horreur, mais un petit peu déstabilisé, sûrement. C'est des histoires qui peuvent être très dures, notamment avec le court-métrage Coyote, qui peut en toucher plus d'un, qui va mettre en avant une histoire d'espionnage au Moyen-Orient.
Il ne faut pas en dire plus.
C'est ça, garder le mystère.
Oui, laissons le mystère. Et on enchaîne sur le jeudi, puisque le jeudi, là, pour le coup, vous refaites les Césars.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça signifie, ça?
Alors déjà, ça demande de se mettre un costume-cravate, si c'est possible. Ouais. Et ensuite, voilà, c'est des films donc, qui ont été nommés aux Césars, aux Oscars. Et voilà, donc ça va être des films de qualité. Moi, si je devais en placer un, on va dire, c'est La mort d'un acteur avec Philippe Rebaud, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous invite à venir regarder ce film qui est vraiment très drôle.
Il faut noter que Laurent.
Oui, comment vous faites pour avoir ces films qui ont participé au César? Vous allez les chercher? On vous les propose?
Un peu des deux. De toute manière, de manière générale, les courts-métrages qu'on reçoit sont souvent proposés directement par les boîtes de production. Pour les Césars, on va quand même faire un travail de recherche, aller vers eux, etc. Mais dans tous les cas, ça reste assez facile de discuter avec les boîtes de production. De manière générale, tout le monde est très content de participer et d'être sélectionné à notre festival.
D'accord. Et la question qui peut fâcher, c'est gratuit? Vous payez pas pour avoir les films, ils vous les envoient.
Il y en a qui sont gratuits, ouais. Il y en a qui sont payants, ça dépend des années, ça dépend surtout de s'ils sont sélectionnés au César cette année.
D'accord.
En fait, ou aux Oscars, n'importe. Là, par exemple, sur cette sélection, On n'assassine pas Baudelaire, c'est gratuit.
D'accord.
Et à quel moment vous avez le final cut, enfin à quel moment vous sélectionnez, vous savez que tout est sélectionné
De notre côté, quand est-ce qu'on a terminé notre sélection?
À quel moment vous dites, bon, on s'arrête là?
Le 15
bon.
Mars.
D'accord.
Ouais. C'est la date butoir. Faut pas
la date butoir cette année, butoir. C'était le 15 mars. D'accord.
C'est-à-dire que les films qui arrivent au-delà de cette date, ouais, ne sont nécessairement pas sélectionnés, même s'ils mériteraient de l'être.
C'est ça, exactement. Parce qu'après, il y a tout un travail de relation avec les productions pour recevoir des fichiers spécifiques, qui sont des fichiers DCP, qui peuvent être projetés en cinéma pour avoir une qualité supérieure et nécessaire pour nos projections. Et donc, tout ce travail de communication et de recherche de fichiers est très très long. Et donc, le 15 mars, c'est le maximum où on peut aller pour respecter les délais du festival.
Et du coup, est-ce que vous gardez des films donc, sous le coude pour le prochain festival? Ça peut arriver ou
non,
vous repartez à zéro chacun?
On repart à zéro. Ouais.
Alors, il peut y avoir, je crois, pour la séance en plein air, une espèce de best-of, non?
Oui, c'est vrai.
Mais on en reparlera de la séance au plein air. Restons au César. César, il me semble que vous demandez quelque chose aux spectateurs pour vérifier s'ils ont les mêmes goûts que l'Académie des Césars.
Et oui, on leur demande de voter à la fin de la séance. Donc avec un petit bulletin de vote qu'ils nous remettent à la fin et puis ils nous disent lequel ils auraient sélectionné.
D'accord. Celui à quel ils donnent le César et après vous comparez avec le résultat de l'édition qui vient de passer.
Exactement.
Et ça coïncide souvent ?
D'habitude, il y a des surprises en fait.
Ouais.
Des surprises parce que forcément, notre public, déjà, notre public aime parfois beaucoup rire. Hein. Mm-hmm. Donc c'est peut-être pas le cas des Césars.
Des professionnels, la profession, c'est pas trop.
Ouais. Donc des fois c'est différent, mais voilà.
Oui, ça arrive. Donc on va continuer à parler de toutes ces séances, et en particulier de celles du vendredi et du samedi qui sont particulièrement riches. Mais c'est le moment pour vous, Laurent, avec l'ouvreuse, de scruter l'affiche de la semaine, n'est-ce pas ?
L'affiche cannoise, pour la dernière fois, hein, puisque vous le savez, le Festival de Cannes s'est terminé avec la Palme d'Or de Christian Mounjou pour Fjord. Alors, on peut voir L'objet du délit, le nouveau film d'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil, Eye Haidara, Claire Schuste, Patrick Mille et Jacques Weber. Alors, nous sommes dans les coulisses d'une ambitieuse production de l'opéra, hein, Les Noces de Figaro. Puis les tensions montent lorsqu'une accusation d'agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d'opinion et de génération se font jour. Et comme toujours, chez Agnès Jaoui, le rire n'est jamais loin du drame. On attendait avec impatience le nouveau film d'Agnès Jaoui, qui, je rappelle, est la présidente de la Cinémathèque de Toulouse depuis 2021. Parce que pour la première fois depuis ses débuts de réalisatrice avec Le Goût des Autres en l'an 2000, elle est restée 8 ans sans tourner. Parce qu'il s'agit aussi de son premier film depuis la disparition de son complice de toujours, Jean-Pierre Bacri. Mais aussi parce qu'elle a choisi d'aborder un sujet où, sur le papier, il n'y a que des coups à prendre, le mouvement MeToo. Agnès Jaoui propose ici, non sans ambition, de mettre de la nuance et des doutes, là où les plus farouches opposants des deux camps s'affrontant sur cette question n'ont que des certitudes, le tout en l'assumant à 100%, car elle endosse elle-même le personnage de la cantatrice qui s'oppose aux féministes, qui veulent accuser le coupable avant tout passage devant la justice. On retrouve ici tout ce qui fait le sel de son cinéma, hein, cet humour mordant mais jamais moqueur, ce regard au scalpel sur la société qui l'entoure, un sens du casting mêlant différentes familles de cinéma sans esprit de chapelle, je le rappelle, Daniel Auteuil, Eye Haidara, Claire Schuste, Oussama Kedam, tous très bons et voire même irrésistibles. Nulle place ici pour un discours lénifiant. L'objet du délit dresse le constat qu'à l'image de la gauche française, il existe sans doute aujourd'hui deux féminismes irréconciliables. Le tout sans non plus en faire une thèse, hein, mais en trouvant toujours le ton juste de la comédie pour raconter les petits travers et les grandes lâchetés qu'une telle situation provoque. L'objet du délit ne fera pas l'unanimité, la meilleure preuve que sa réalisatrice a sans doute touché juste. Petite revue presse sur ce film. Le sens du dialogue d'Agnès Jaoui est un régal, hein, tant son analyse des réactions de chacun selon son âge et son statut est pertinente et insolente. Sa comédie est éblouissante, intelligente et drôlissime, hein, selon Première. Femme actuelle a beaucoup aimé aussi, oui messieurs, je lis Femme actuelle parce que je suis un homme actuel. Une comédie chorale enlevée et bien dialoguée. La Croix a beaucoup aimé aussi, sous la plume de Corinne Renoux-Mativel. La réalisatrice fait un portrait subtil de différentes générations de féministes. Gros bémol pour les Inrecuptibles, mais aimait-il toujours quelque chose, les Inrecs? Hélas, les ressorts comiques employés paraissent bien maigres face à l'importance de l'enjeu. Petit bémol aussi pour Libération, sous la plume de Thomas Télandre. Agnès Jaoui livre un film où tout est bien qui finit bien, sans déplacer grand-chose. L'Obs n'a pas aimé non plus. Embarrassant, surtout lorsque la réalisatrice relègue le harcèlement sexuel au rang de caca nerveux, je cite, entre guillemets. À l'affiche aussi cette semaine.
Je voulais juste vous interrompre, excusez-moi, avant de continuer le panorama des films de la semaine, juste pour rappeler le palmarès. Le palmarès, c'est dire que Fjord de Christian Mungiu a obtenu la Palme d'Or et que Christian Mungiu, le réalisateur roumain, fait partie maintenant du club très fermé des réalisateurs qui ont obtenu deux Palmes d'Or, puisque c'est sa deuxième, Fjord.
Je crois que c'est une dizaine.
Ils sont pas nombreux, ouais. Puisqu'on va arriver à la 80e édition, et en 80 éditions, il doit y en avoir qu'une dizaine, oui. En 2007, Christian Mungiu obtenait la Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, l'histoire du jeune fille dans sa Roumanie natale, puisqu'il est roumain, je le disais, Mungiu. Après, Bon, ben, vous avez remarqué que le jury a beaucoup aimé donner des prix ex aequo.
Oui.
Alors,
ils
des
ont
prix.
Pas su se décider,
oui, ils ont eu du mal. Donc, il y a eu deux prix d'interprétation féminine. Vous me direz, les deux actrices sont dans le même film.
Virginie Efira
et Okamoto.
Et puis c'est la même chose pour les interprètes masculins qui sont tous les deux dans Coward de Lucas Dont, Emmanuel Mucha et Valentin Campagne. Qu'y a-t-il d'autre? Ah bah oui, on pourra regretter aussi que Notre Salut n'est que le prix du scénario.
Oui, le film d'Emmanuel Maré, oui.
Qui est vraiment un film extraordinaire, qui aurait mérité, si ce n'est la Palme, au moins le Grand Prix. Mais en tout cas, il a eu le prix du scénario. Une dernière chose aussi, La Bola Negra, du tandem Javier Calvo et Javier Ambrosi, obtient la mise en scène.
Et ex aequo avec Pavel Pavlikovski,
oui, Fazerland, c'est vrai, pour Fatherland. Le Grand Prix est allé à Minotaur de Zviagintsev, c'est difficile à dire, le réalisateur russe, et puis qui nous manque-t-il?
Le prix du jury, L'Aventure rêvée.
Exactement, Valeska. De Valeska Grisbag. Une dernière chose encore.
Et la Palme d'Or du court-métrage.
Oui, Los Contriantes de Federico Luis. Et puis La Caméra d'Or, c'est important aussi. C'est un film d'un certain regard, puisque vous savez que La Caméra d'Or récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues, même les sections parallèles, participent à cette compétition. Et c'est Ben Imana de Marie-Clémentine Dazab et Jumbo, dans la section Un certain regard, qui a obtenu La Caméra d'Or. Voilà, je vous ai interrompu pour ça, Laurent, excusez-moi.
À l'affiche cette semaine, on peut voir aussi Mata de Rachel Lang avec Raphaël Personnaz, que vous connaissez bien Guillaume, et Joséphine Japy, blessée lors d'une opération clandestine au Niger. Mata, une agente du service action de la DGSE, perd la trace de son compagnon Antoine, capturé sur place, et à son retour, elle est affectée à la sécurité intérieure du territoire et se saisit d'une mission de contre-espionnage dans les Alpes. Une ombre semble relier ce dossier à l'embuscade en Afrique, et convaincue que ses supérieurs lui dissimulent des informations et hantée par la activité de son ami Antoine, elle se lance dans une course contre la montre, hors de tout cadre officiel, au risque bien sûr de tout perdre. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Tout va super de Patrick Kassir avec Noémie Lovski, Cocotte de Jordi Palfi, et si les ruines d'un film étaient une poule. C'est une bonne idée ça. Vous pourrez le voir au CGR Montauban Le Paris par exemple. On peut voir aussi Father de Teresa Vodkova au Régent Saint-Gaudens ou à l'ABC à Toulouse. Le Virtuose de Daniel Roer avec Dustin Hoffman. On va se faire peur avec Colonie de Sang So-yeon. Nous sommes dans un gratte-ciel à Séoul et une mystérieuse contamination va se propager dans cet immeuble. Et pour finir, un film d'animation, Le Dernier Souffle d'un Yakuza de Baku Kinoshita, qu'on peut voir à l'américaine Cosmographe.
Le final des Noces de Figaro de Mozart, l'opéra d'après Beaumarchais, bien sûr, dont on découvre le montage dans le film d'Agnès Jaoui, L'objet du délit. Cette troupe est constituée donc pour monter ce fameux opéra, Le Mariage de Figaro, avec une influenceuse féministe à la mise en scène, une influenceuse qui ne connaît rien évidemment à l'opéra. Ça ajoute un peu de piquant à l'histoire. Et en tout cas, tant bien que mal, l'opéra arrivera au bout et le final sera plutôt joyeux. En tout cas sur scène, c'est sûr, puisqu'on joue la comédie. Et si nous retrouvions notre homme de loi des séries ? Tiens, c'est une bonne idée qui va nous parler de ce soir d'une série sud-coréenne, La Traque dans le sang. Tout de suite, le tribunal ouvre ses portes et notre homme de loi, Grégory Com, va officier.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, ce soir je vais vous parler de la saison 2 d'une série que j'avais adorée sur Netflix qui s'appelle La Traque dans le sang. Et je vous avoue, j'ai mis du temps à regarder la saison 2 car j'avais tellement aimé la saison 1 de cette série et qui était complète avec une histoire vraiment finie que je me suis dit pourquoi retourner sur ce sujet-là ? Est-ce que ça ne va pas gâcher mon impression de la saison 1 ? Et je me suis dit pour vous Louis-Marie, parce que vous savez à quel point je suis un homme sacrificiel quand vous me le demandez, j'ai regardé la saison 2. J'ai pas été déçu. J'ai vraiment pas été déçu. Alors je rappelle un petit peu le contexte de cette série. Donc c'est en Corée du Sud et la saison 1, on était en plein Covid et on gérait les conséquences justement économiques pour les petits commerces de la crise du Covid et le fait que certains commerces passaient des accords avec des usuriers pour emprunter de l'argent, qui était clairement mafieux, et qui derrière, en fait, mettait des petites clauses dans le contrat qui fait que ces gens-là se retrouvaient encore plus dans la panade qu'ils l'étaient au départ. Et ça allait affecter la mère d'un des deux héros. Et ce héros, qui est un boxeur, avec un autre ami boxeur, allait enquêter sur justement tout cet empire mafieux et découvrir qu'il y avait bien évidemment d'autres choses cachées derrière, se faire des alliés, se faire des ennemis. C'était une saison exceptionnelle, très bien filmée, des personnages extrêmement attachants, une évolution très forte des personnages avec des gens très très bien écrits, des scènes d'action génialissimes, des valeurs aussi incroyables de rédemption, d'évolution, de courage, de camaraderie. Ça faisait du bien en fait, ça faisait du bien malgré le fait que la série pouvait être sombre et triste. Et ça aussi que je trouvais bien, c'est qu'en fait elle avait des aspérités, cette série. C'est qu'à des moments, les héros, ils tombaient, ils n'y arrivaient pas, c'était dur et difficile, ils étaient face à la face la plus sombre de l'humanité. Mais ils se battaient, ils se relevaient et ils apportaient un petit peu de lumière dans ce combat. Et en fait, c'est ça, c'est que pour que ça soit réussi, il faut des bons antagonistes, les héros en difficulté et qui remontent. Et quand la saison 1 se termine, il n'y avait plus rien à rajouter, je pensais. Arrive la saison 2, qui elle va être sur un autre thème, qui est toujours hein, sur les problématiques économiques, mais qui va être sur le thème des combats de boxe illégaux et des paris sur le Darknet. Sujet assez intéressant, plutôt bien traité, pas trop caricatural, clairement. Et surtout, on va avoir nos mêmes protagonistes qui vont être mêlés de façon personnelle à cette histoire et qui vont, toujours pareil, enquêter et essayer de trouver une solution. Et ça va les amener toujours sur une ligne de crête, c'est-à-dire est-ce qu'ils restent dans la légalité pour combattre ces personnages-là ou est-ce qu'ils passent dans l'illégalité, quitte à faire des choses très graves. Et donc, d'avoir des personnages particulièrement bienveillants confrontés à l'échec, à la difficulté, encore une fois, est-ce qu'ils vont s'en relever ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas non plus un reboot, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils repartent avec les blessures qu'ils avaient, autant physiques que mentales. Et ils vont devoir faire face à quelque chose d'encore plus dur, malgré leur expérience. On va avoir des personnages anciens qui vont revenir. Certains, d'ailleurs, où on ne savait pas s'ils avaient survécu ou pas à la saison 1. On va avoir des personnages qui vont évoluer, qui vont avoir des réponses à leur destinée dans cette saison 2. C'est très bien écrit, un petit peu plus violent, un petit peu plus resserré aussi, peut-être un peu plus sombre aussi, clairement, tout en ayant quand même des personnages qui restent particulièrement lumineux quand il le faut. Les acteurs sont excellents, la qualité de réalisation est encore au-dessus, avec vraiment un soin apporté aux combats de boxe qui sont d'un niveau cinématographique, j'ai pas peur de le dire, et encore une fois, des valeurs confrontées à la dureté de la réalité, mais j'ai envie de dire, ça les rend encore plus belles et encore plus fortes, et des questions éthiques qui se posent. Donc, voilà, vous avez mon avis, et il est clair, et c'est pour ça que je rentre pas dans le détail du scénario, je vais pas vous spoiler, clairement, La Traque dans le sang saison 1, c'était exceptionnel. La Traque dans le sang saison 2, c'est au même niveau. C'est exceptionnel, c'est bien, c'est beau, c'est grand. Ça fait du bien des séries qui portent aussi ce genre de valeurs. Donc, on va être clair, chers auditeurs, chères auditrices, votre temps est précieux. Dépensez-le devant La Traque dans le sang saison 1, saison 2. Vous ne le regretterez pas. Pensez à vous, faites-vous du bien.
Notre homme de loi des séries, Grégory Combe, est toujours de bons conseils. Vous savez ce qu'il vous reste à faire concernant La Traque dans le sang, saison 2, à voir sur Netflix.
Never fall. 비로소 약속 깨지지 않나. 등 뒤엔 brother 끝까지 간다. 숨이 멎어도 난 멈추지 않나. 이 판은 survivor. We don't back down. 피해린 위에 we fight tonight. 부서진
Ring of Blood. C'est signé Woo Dong Hwan et Lee Sang Yi, qu'on peut entendre dans la Traque dans le sang.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Le cinéma Pathé Wilson à Toulouse continue son exploration des films qui ont obtenu des Oscars et qui ont pu aussi briller au César pour certains, vous allez comprendre pourquoi. Et même à Cannes aussi, puisque dans cette liste figure The Artist. Mais revenons à la musique qu'on entend là, elle est signée Alexandre Desplat, un compositeur français, qui œuvre ici pour un grand metteur en scène qui nous vient d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, Guillermo del Toro. Et ce film, c'est La Forme de l'eau. Extraordinaire film avec une espèce de... Alors, c'est pas un extraterrestre, c'est un drôle de d'homme amphibien qui a été capturé par l'armée américaine dans la jungle amazonienne et qui est gardé dans une piscine pour être étudié. Parce que on est en pleine guerre froide. Au pire moment, on est en 62. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on savait comment fonctionne cet homme? Oui, mais seulement, il va naître quelque chose entre la femme de ménage qui a perdu la voix et cet homme, cet amphibien. C'est un film extraordinaire. 4 Oscars pour ce film-là, La Forme de l'eau, Guillermo del Toro, à voir au Pathé Wilson dimanche 31 mai à 19h. Et donc, il a été récompensé en 2018, je vous l'ai dit, meilleur film et aussi meilleure musique, entre autres. Sinon, on va faire la liste sans s'attarder trop sur les sujets. Je vous le disais, The Artist, Michel Hazanavicius, a collectionné les récompenses. Je dis pas le nombre de récompenses qu'il a eues dans les différentes manifestations que sont les festivals, mais aussi des prix, même au BAFTA et d'autres encore au César, bien sûr. à Cannes également, et aux Oscars aussi. Donc, le film muet avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo, c'était en 2011. Il y a Alejandro González Iñárritu qui lui aussi avait obtenu plusieurs palmes pour Birdman en 2014, un film assez assez déjanté aussi, qui est un plan séquence du début à la fin. Élu aussi de nombreux Oscars. Jeudi 28 mai à 20h30. Pour The Artist, c'est jeudi 28 mai à 18h. Vous pouvez voir les deux, suffit d'arriver à 18h. Continuons avec Moonlight. Alors, c'est Barry Jenkins. C'est un film qui est passé un peu inaperçu, mais qui mérite d'être vu. La difficile condition de noir aux États-Unis et en plus compliquée quand on est homosexuel. Le film avait eu l'Oscar en 2017, à voir vendredi 29 mai à 14h30. Spotlight, c'est un film d'enquête d'enquête journalistique. Un groupe de journalistes se crée pour aller chercher justement dénoncer les exactions faites aux femmes. C'est Spotlight de Tom McCarthy, c'était en 2016, vendredi 29 mai à 19h30, Michael Keaton, Mark Ruffalo et Rachel McAdams sont au générique de ce film. Un autre film que j'aime beaucoup aussi et dont que j'ai évoqué la semaine dernière à propos de Miss Daisy et son chauffeur, Green Book, sur les routes du Sud, qui inverse les rôles. Rappelez-vous, ici c'est un pianiste qui est en tournée dans le sud des États-Unis et le voyage avec son chauffeur blanc, un noir, un blanc, et les voilà partis sur les routes du Sud. C'est pas facile, pas pour le chauffeur mais plutôt pour le pianiste, même si c'est celui qu'on attend. À voir dimanche 31 mai à 19h15. Parasite, bon, c'est plus à présenter. 2020, il a tout raflé aussi, à Cannes comme aux Oscars. Et aux Oscars, il est à noter qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, premier film qui n'était pas en langue anglaise à avoir eu l'Oscar, et en plus l'Oscar du meilleur film étranger. Ça fait beaucoup pour le même film, quand même. Bong Joon-ho, lundi 1er juin, 19h30. Et enfin, Everything Everywhere All at Once. C'est le film de Daniel Schneider et Daniel Kwan. Un film là aussi qui s'en va flirter avec des moments temporels dans lesquels on fait des sauts. Il se passe des choses assez particulière, étrange et en tout cas très remuante. Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis au générique de ce film. Sinon, à la belge, bah, il y a le Dune de David Lynch. On dit qu'il y est, mais c'est tout ce qu'on fait. On le saute. Oui, parce que c'est une catastrophe. Mais vraiment, je pense que David Lynch a raté un film. C'est celui-là. Maintenant, ce point de vue m'appartient, mais je crains que beaucoup de monde le partage aussi.
Oui, c'est vrai, mais après, il s'est bien rattrapé. Donc
on peut
pas toujours être bon non plus.
Oui, oui, oui. Mais pas avec ça.
Les deux suites sont meilleures, enfin, le numéro 1 et le numéro 2.
Celle de Villeneuve, dont on attend maintenant le troisième volet. Et puis, juste pour le plaisir de la mettre, on met ça. Hein.
Adèle.
Sans doute le James Bond qui a le mieux marché de toute la série des James Bond, mais le mieux marché. Et même la chanson qu'on entend, Adèle, Skyfall, c'est le titre de la chanson, c'est aussi le titre du film. La chanson a été aussi la plus vendue de l'histoire des James Bond et même des films. Et elle obtient l'Oscar de la meilleure chanson. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Bon, alors si vous voulez revoir Skyfall, c'est au cinéma Pathé-Labège vendredi 29 mai à 19h15. En VO, le Bullet Train de David Leitch, film de 2022, dimanche 31 mai à 19h15, avec Brad Pitt qui joue le rôle de, je sais plus ce qu'il est, Clémentine, je crois. Il a un nom de fruit. Bon, il a une mission à accomplir et ça va très mal se passer dans le Bullet Train qui, évidemment, comme son nom l'indique, va à toute vitesse. C'est dimanche 31 mai à 19h15 et La mémoire dans la peau de Doug Liman, Matt Damon, lundi 1er juin à 21h. Et puis nous irons faire un tour à la Cinémathèque pour voir Diabolique. Voilà, ça, c'est un film qui mérite le détour comme on en faisait dans les années 60. Mario Bava, un film, le personnage diabolique est entre Fantomas, un Batman méchant, enfin bon, c'est assez étrange. Il se passe de drôles de trucs et puis il y a...
Orange Mécanique aussi.
Oui, bien sûr, mais on en a déjà parlé et il faut pas le rater, évidemment. Puis il y a le cycle Rossi de Palma, Madres Paralelas, c'est qui mérite d'être vu. Un film de Pedro Almodovar avec Penélope Cruz. Voilà, on a fait le tour. Laurence, à vous.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira et Charlotte Rampling. Dans la Toscane du XVIIe siècle, Benedetta arrive au couvent de Pescia pour prendre le voile et embrasser la vie religieuse. Dès son arrivée, elle est placée sous la supervision stricte de Sœur Felicita, la mère supérieure, qui veille à l'édification morale des jeunes pensionnaires. Tout en scène choc et dialogue sulfureux, de l'humour noir ravageur et d'une force politique, le film a tout pour réjouir, tiré d'une histoire vraie. Jeudi, sur T18, à 20h55, ce sera La Mule 2 et avec Clint Eastwood, l'histoire de ce vieil homme sans histoire qui va devenir passeur de drogue. 6 ans après une nouvelle chance, Clint Eastwood revient devant la caméra pour un drame crépusculaire. Pour sa 37e réalisation, le plus grand cinéaste américain vivant signe une œuvre mélancolique à l'humour mordant, superbe. Jeudi, France 5, 21h05, on pourra voir Max et les ferrailleurs de Claude Sauté avec Romy Schneider et Michel Piccoli. Histoire de Max, un policier qui s'infiltre habilement dans le monde criminel en utilisant Lily comme appât. Sa stratégie consiste à inciter les fameux ferrailleurs à commettre un braquage pour les arrêter. Un film sombre sur la manipulation et le mensonge dans lequel brille encore une fois Romy Schneider, un grand classique du cinéma. Dimanche, France 2, 21h10, mais on parlait tout à l'heure de James Bond, ben voilà, on pourra revoir 007 Spectre de Sam Mendes avec Daniel Craig, Léa Seydoux et Christopher Waltz. L'agent secret le plus célèbre du monde s'immerge dans une atmosphère festive lors de la fête des morts à Mexico. Il a pour mission d'éliminer un certain Marco Char. Il souffre de quelques longueurs quand même, ce Bond est porté par quelques scènes d'action très réussies et un casting royal. Lundi sur Arte à 20h55, on pourra revoir Il était une fois la révolution de Sergio Leone avec James Coburn et Rod Steiger, des personnages pleins de panache, de l'humour et une réalisation particulièrement maîtrisée. Un classique du western. Le conseil de lecture, ce sera Une histoire de cinéma, le livre illustré des 130 ans du 7e art de Mélanie Toubeau. Si l'histoire du cinéma vous était contée, eh ben, c'est le but. Hein. De Méliès au cinéma en relief, d'Agnès Varda, Jordan Peele, en passant par le Festival de Cannes, Hollywood, Walt Disney, Hitchcock, découvrez 45 portraits de personnalités, lieux, événements ou inventions qui ont révolutionné le cinéma. Un livre que vous retrouvez aux éditions Webedia Books pour 35€. Tenez, Alexandre, je vous l'offre. Et Guillaume, je vous passe le ballon pour un conseil de lecture.
Oui, même la balle de tennis. Je vous propose un livre sur le passage de la peinture au cinéma et leurs liens étroits. Oubliez la peinture est en effet un récit illustré d'Olivier Assayas, réalisateur et scénariste français à qui l'on doit l'excellent et récent Mage du Kremlin, un ouvrage passionnant sous forme d'autoportrait, souvent critique du cinéaste cherchant sa voix, VOIE mais aussi VOIX, avant de réaliser Olivier Assayas, en effet commencé par peindre. Je le cite, je n'en pouvais plus de la solitude de la peinture alors que le cinéma, cet art collectif, m'a lui ramené au réel. Oubliez la peinture, à retrouver donc aux éditions Mercure de France pour 22€. Et tenez, je vous l'offre, chère Nathalène.
Merci.
Bon, mon chéri, tu t'inquiètes pas, je suis sûre que tout va bien se passer.
Non, mais je m'inquiète pas.
Tu sais y aller, gare de Lyon?
Ouais.
Bon, tu vas voir, le train, c'est un peu long pour elle. Il faut toujours que t'aies de quoi l'amuser.
Ouais. Je lui ferai des blagues, pas de soucis.
Ouais. Bon, pour son repas, t'as pensé à...
J'ai pris tous les goûts. Carottes, haricots, petits pois, pommes cannelle. J'ai même pris ceux avec les morceaux, là.
Quoi? Bon, t'as pris son va-voir?
Oui.
C'est lingette.
Mais oui, t'inquiète pas.
Ça tétine?
Oui. Pas de problème.
Et ça fourmille?
Je te rappelle.
Mince, la fourmi. Chloé entame sa 293e journée sur Terre. Son père, sa 10935e. Mais c'est aujourd'hui qu'ils vont partager leur premier vrai tête-à-tête lors d'un voyage en train. Un trajet qui sera peut-être l'occasion pour ce père de découvrir enfin qui est ce petit être qui a débarqué dans sa vie depuis 10 mois. Ce film, eh bien, il était programmé à détour, et je vais vous dire quand. C'était en 2008, la 11e édition. C'est un film d'animation. Vous avez reconnu la voix de Jean-Paul Rouve, qui la prête au personnage du papa. C'est un film en stop motion, à ne manquer sous aucun prétexte. Et le titre, c'est évidemment Premier voyage, signé donc Grégoire Sivan. Et si on continuait de parler de détours, tiens, à détour, on fait un petit tour rapide du côté du vendredi, hein ? C'est peut-être une bonne idée.
Très bonne idée.
Alors, que se passe-t-il le vendredi ?
Alors, le vendredi, on a deux séances. La première, Amour-Humour, à 20h30, et enfin, une séance à 22h30. La séance plénière, qui est gratuite et tout public au château de Saint-Geniès-Bellevue. On démarre la soirée donc avec une première séance qui fait du bien, avec des courts-métrages qui font du bien, qui font rire, qui rendent de bonne humeur. Et puis, par la suite, on poursuit avec la plénière, avec une sélection de courts-métrages qui viennent de notre best-of des courts-métrages sélectionnés en 2025. Pour une sélection, en fait, l'objectif de cette séance, c'est de faire découvrir ce format peu connu, le format du court-métrage, au grand public, à tout le monde, et puis faire en sorte que tout le monde tombe amoureux de ce format.
Oui, qu'il est difficile de découvrir en dehors des festivals ou aux heures très tardives sur les chaînes de télévision.
Oui, la télé, c'est même pas la peine, oui.
Oui. Le samedi, Alexandre, qu'est-ce que vous nous promettez ?
On commence la journée, la matinée même, puisque c'est à 11h30 avec Courtissimo. Donc, c'est des séances qui vont au maximum de 5 minutes de durée. Donc, c'est une quinzaine de films, voilà, très intéressant. Je vous conseille de venir les voir. Ensuite, on a la séance de cinéma d'animation. Donc ça, c'est à 14h, toujours le samedi. Donc c'est de l'animation avec des films assez forts. Même chose, venez voir cette séance.
Et puis, c'est terminé ? Non, continuons.
Non, ce n'est évidemment pas terminé, parce qu'après on a donc les premiers cours qui seront à 15h. Donc c'est les premiers films de court-métrage des réalisateurs. Donc là, réalisateurs et réalisatrices, là on a souvent de belles surprises. Donc voilà.
Et puis, en fin de soirée, deux séances, non ?
Alors on a deux séances, mais avant ça, on a la table ronde.
Ah oui, il y a une table ronde.
Ouais, je pense que vous avez fait exprès, Louis-Marie, parce que c'est vous qui l'a présenté.
Ah mince.
Ah, ouais. Ah bon.
Me voilà beau, me voilà propre.
Vous voilà. Travaillez le samedi aussi ?
Oui, je travaille le samedi, oui.
Le sujet de la table ronde, c'est scénariser, réaliser son film ?
Écoutez, de mémoire, je peux pas vous dire, vous me posez une question piège, mais je sais que c'est indiqué sur
dans l'idée, de l'idée à la réalisation.
Voilà,
du scénario à la réalisation.
Voilà, exactement. Comment arrive-t-on à faire un court-métrage ? C'est ça. Et sur quoi se base-t-on ? Et surtout, où va-t-on chercher l'argent ? C'est ça qui est important. Donc après les séances, qui sont sans doute aussi des séances très attendues, puisque les deux ont pour thème le florilège, mais un est international, l'autre national. C'est ça ?
Exactement. Donc la séance Florilège du Monde qui démarre à 18h et la séance Florilège francophone qui démarre à 21h.
Et comment ? Alors on a dit que c'était Saint-Geniès-Bellevue. Quel est maintenant, d'un point de vue pécunier, quel est le prix des places ?
Alors pour une place, pour une séance, ça va être 7€ pour un adulte et 5€ les prix réduits, donc moins de... pour les moins de 14 ans et les étudiants, mais aussi nous faisons des passes, notamment un pass à la semaine qui s'appelle le Grand Détour pour 45€, qui permet d'assister à toutes les séances de la semaine, et enfin un pass express pour ceux qui n'ont pas le temps de venir dans la semaine mais qui veulent assister à toutes les séances du samedi, donc pour 25€, qui peuvent être présents sur toute la journée et profiter de notre sublime sélection sur notre samedi.
Ah ben sublime, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Exactement.
Tout est dit, Saint-Geniès-Bellevue, c'est au-dessus de l'Union.
Exact.
Et il y a une belle ambiance autour du cinéma ?
à une super ambiance à travers nos bénévoles, une ambiance très familiale, très festive. On sent que tout le monde a envie d'être là, on sent que tout le monde a envie de faire la fête et de discuter. Et puis d'ailleurs, sur notre week-end du vendredi au samedi, les festivaliers pourront rencontrer des acteurs, des réalisateurs et donc discuter avec eux de comment ils font le court-métrage, notamment avec vous autour de la table ronde, mais aussi de manière générale dans les petites coulisses du festival.
On peut peut-être préciser quand même le site cinécourt-bellevue.com.
Voilà pour toutes les autres informations. Merci à vous, merci. Nathalène Petiot, Alexandre Assema. On est impatients de vous retrouver. Et puis on écoute un petit bout de musique d'un film qui avait été proposé à Détour, Le ciel est clair, de Marie Rosselet-Ruiz, qui a une sœur jumelle, Hélène Rosselet-Ruiz. Elles étaient venues toutes les deux à Détour la même année, puisqu'elles présentaient ensemble un film. Mais elles se sont suivies, puisqu'elles ne pouvaient pas être ensemble. Et personne ne s'est rendu compte du changement, parce que ce sont de vraies jumelles. Hélène Rosselet-Ruiz, qui était à Cannes cette année avec son film Le Triangle d'Or. Messieurs, vos coups de cœur.
Les coups de cœur, ce sera pour L'Objet du Délit, Cocotte, Colonie et Détour en Cinécourt du 2 au 6 juin à Saint-Geniès-Bellevue.
L'Objet du Délit, La Forme de l'Eau, Green Book, L'Homme qui voulut être roi aussi, très beau film.
Oui.
Évidemment, le court-métrage Omnibus, visible sur YouTube, et puis la 29e édition du festival Détour en Cinécourt. Je rappelle le site cinécourt-bellevue.com.
Et oui, dans ma précipitation pour les reprises, j'ai oublié Ridicule au CGR de Rodez, mardi 2 juin à 20h15, et L'Homme qui voulut être roi. Absolument. À l'American Cosmographe. Formidable film de John Huston avec Sir Sean Connery et Michael Caine. Extraordinaire. Pour moi, les coups de cœur, L'Objet du Délit, La Forme de l'Eau et Green Book, et bien sûr, la 29e édition de Détour en Cinécourt. Merci à vous.
Bonne soirée.
Merci à vous.
À mercredi.
À mercredi pour un nouveau numéro de L'Ouvreuse. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous retrouvez à 20h Nathalie Cardon pour Des Clés pour Vivre. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au Cinoche. Non, c'est la meilleure des choses.
La prochaine fois, on ira au Cinoche.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com. Écoutez Présence.